au réseau Cogeco. Cogeco. Jusqu'à 15h, vous écoutez Mon Grain PM.
Dans le domaine de la santé, la recherche fondamentale, c'est un peu l'enfant pauvre de notre système de santé chez nous et même de nos perceptions en rapport avec ce qui se fait. Des chercheurs, c'est des gars qui sont et des femmes qui sont derrière des portes closes, des volets tirés, qui sont dans leur laboratoire et qui travaillent très fort. C'est pas ceux que vous voyez à l'abord du lit d'un malade. Et pourtant, ceux qui sont aux abords du lit du malade, que l'on connaît comme relation patient et gens de la santé, bénéficient du résultat des recherches qui sont faites derrière des portes closes dans des laboratoires, des gens qu'on connaît moins. Eh bien, c'est ceux-là aujourd'hui qui sont en lumière parce que c'est eux qui sont en train de chercher pour nous trouver un vaccin afin de traiter ce que nous avons à traverser présentement, c'est-à-dire cette pandémie de COVID. Je veux parler à un chercheur ici qui s'appelle Denis Leclerc, qui est un docteur, évidemment, et son équipe du CHU de Québec à l'Université Laval, qui travaille d'arrache-pied pour mettre au point un vaccin, justement. Bonjour, docteur Leclerc.
Oui, bonjour.
Vous avez demandé dans le passé, au mois de mars, un financement social parce que la recherche, c'est l'enfant pauvre, on le sait. Ça a fonctionné, ça a bien marché. Alors, comment en est votre recherche? Où en êtes-vous?
Bon, oui, ça a marché. Ça m'a permis, en fait, d'acquérir une pièce d'équipement qui était endommagée chez nous. On avait un équipement qui était similaire dans les années précédentes, mais ça datait de plus de 20 ans. Donc là, ça nous a vraiment permis d'accélérer la recherche et le développement du vaccin. En ce moment, on est... pour faire une bonne mise en contexte, là, comme vous l'avez mentionné au début, nous, on est un laboratoire de recherche fondamentale. Donc, ce qu'on met au point, en fait, c'est une plateforme vaccinale qui va probablement être, on espère, utilisée pour une prochaine pandémie. On ne sera pas le premier vaccin à être mis sur le marché. Là. Moi, mon équipe comporte 4 personnes. Je peux pas compétitionner avec Cansino ou avec des compagnies qui ont des milliards d'investissements. Là, c'est absolument impossible. On n'a pas la même grosseur d'équipe. Là. Donc, on est plus dans le développement de nouveaux outils qui pourront, dans une pandémie subséquente dans les prochaines années, nous permettre d'agir beaucoup plus rapidement pour éviter les problèmes qu'on connaît aujourd'hui. Donc, on est vraiment dans le développement de nouvelles technologies.
Ça veut dire qu'on est en matière de recherche et de prévention en même temps pour être capable de trouver un outil adaptable à d'autres types de contamination, mais qui pourrait être le véhicule plus rapide pour un prochain vaccin, une prochaine pandémie.
Oui, absolument. En fait, je me sers du COVID-19. De ce qu'on vit en ce moment pour faire les preuves de concept dont on va avoir besoin pour convaincre tout le monde que j'ai une technologie qui vaut la peine d'être utilisée là, pour prévenir les pandémies. Et en fait, en discutant avec d'autres chercheurs, je suis en train de mettre en place une plateforme justement qui va nous permettre d'utiliser d'autres technologies que la mienne. En fait, on va en avoir une gamme qui nous permet d'agir rapidement contre n'importe quelle maladie virale. Là. Et ça, probablement que ça va nous prendre 4, 5 ou 6 ans à mettre ça en place, mais pour éviter de vivre ce qu'on a à vivre en ce moment, vous savez, là, il va falloir attendre presque 2 ans là, avant d'avoir un vaccin, puis on sait tous que la vaccination, c'est la seule façon, en fait, de pouvoir enrayer des pandémies comme celle-ci de façon efficace. Il n'y a pas d'autre façon de pouvoir contrôler les maladies virales qui soient aussi efficaces que la vaccination. Donc, il faut vraiment trouver des moyens, là, avoir des plateformes qui sont déjà prêtes. Et l'idée, c'est de produire déjà des lots, dans le fond, de protéines, si vous voulez, ou de plateformes qui sont déjà prêtes, pré-approuvées, où on a juste à faire quelques modifications pour les rendre compétentes à générer la réponse immunitaire qui va permettre de donner une protection contre l'ennemi à laquelle on a à faire face. Et une fois que tout ça est prêt à être injecté chez l'humain, là, parce qu'on en a des lots qui sont déjà en place en grande quantité, bien, on peut bouger beaucoup plus vite et on peut vraiment raccourcir le développement des vaccins.
Vous êtes encore donc, aussi optimiste qu'au début de vos travaux?
Oui, absolument. Okay. Ma plateforme technologique, elle fonctionne très bien et elle permet de stimuler l'immunité innée qui est une des clés importantes, là, dans le fond, pour contrer rapidement l'infection contre le COVID-19. C'est justement l'immunité innée qui explique pourquoi les personnes âgées sont plus susceptibles à l'infection que les personnes qui sont plus jeunes ou les jeunes adultes. Okay. Et ça vient de leur capacité à pouvoir rapidement réagir contre l'infection. Et ça semble être vraiment une clé très, très importante là, pour combattre ce virus-là.
Je suis content de vous parler parce que vous dites je ne peux pas compétitionner avec des géants des pharmaceutiques avec des milliards de dollars en recherche. Moi, j'ai eu un 50 000 pour partir, puis j'ai une petite équipe de quatre. Je vois tout à fait le côté presque scientifique, artisanal, si on peut dire, comparativement à multinationales et industrielles. Ceci étant dit, est-ce que ce sera la même chose le jour où il y aura un vaccin et que ce seront les géants qui décideront qui va être vacciné ou qui ne le seront pas? J'ai posé la question tantôt à une infectiologue et la logique ne devrait pas être celle du cash.
Oui, mais là, vous posez une question qui va au-delà de mes compétences. C'est une question politique plus que scientifique. C'est pas moi qui prends les décisions de la gestion des vaccins une fois qu'ils ont été fabriqués. Écoutez, c'est difficile pour moi de répondre à ça.
Mais imaginons que vous avez la patente. Vous l'avez trouvée, là. Ça l'est. C'est ça qui est la situation. Vous n'aurez pas un moyen de le fabriquer. Il va falloir que ça soit
multinationale. L'environnement dans lequel je me situe en ce moment, j'ai réussi à avoir lors d'une rencontre avec Santé Canada, une pré-approbation, si vous voulez, là, pour faire des lots cliniques ici au CHU de Québec qui seraient testés en phase 1. Encore là, je vous dis, là, c'est un premier meeting où, selon eux, tout semble correct. Si je me lançais là, à produire des lots pour faire une phase 1, il y aura encore des contrôles de qualité qui seraient effectués, évidemment. Là. Mais je ne peux pas produire au CHU de Québec des lots qui soient assez importants pour vacciner à grande échelle. Là. C'est absolument impossible. Là. Le maximum que je pourrais produire ici, c'est probablement 50 000 doses. Ça serait probablement le plus loin que je pourrais aller. Là. Mais ça nous permet, par contre, d'avoir suffisamment d'échantillons pour faire des phases cliniques, pour montrer que la technologie est sécuritaire puis qu'on peut passer aux autres étapes qui sont les phases 2 puis les phases 3 pour les phases d'efficacité.
Ce que je trouve intéressant dans notre discussion, puis je pense qu'il faut que collectivement, comme société, on en prenne conscience. On a crié au début de dire « Hey, on a découvert qu'on n'était pas autonome et autosuffisant en matière de prévention, en matière de masques, en matière de toutes les mesures sanitaires que ça prenait pour combattre le virus. » Et je me dis... C'est un peu la même chose comme en recherche. Moi, je me souviens d'un gars qui s'appelait M. Germain, qui a inventé le biberon Playtex. C'était extraordinaire, le biberon Playtex, mais il se l'est fait ramasser par une compagnie pour une chanson, alors qu'on aurait peut-être dû investir là-dedans pour garder ce produit-là chez nous et en avoir les retombées. C'est la même chose pour votre recherche scientifique. Là.
Bon, ben là, oui, puis là, vous avez complètement compris ce que je veux essayer de faire. Puis... je vais vous nommer une autre personne, en fait, qui s'appelle le docteur Armand Frappier.
Ben oui.
Bon, Armand Frappier, là, dans les années 50, c'est lui qui fabriquait sur le campus d'Armand Frappier les vaccins contre la grippe pour le Québec. C'était ça qu'il avait implanté. Puis il faisait aussi des vaccins pour de la polio, puis les vaccins qui étaient courants à l'époque pour la province. Mais quand tu as un site qui produit déjà un vaccin ou des vaccins, qui a un environnement puis qui dispose de plateformes vaccinales qui sont à sa portée, bien, de les adapter pour produire un vaccin par la suite contre un COVID-19 ou une autre bébelle qui va émerger, c'est beaucoup plus facile parce qu'on a un environnement GMP qu'on appelle qui est déjà homologué par Santé Canada puis les organismes réglementaires. Là, on peut bouger beaucoup plus rapidement. Puis c'est souvent là, c'est ça qui bloque là, tout le processus. Puis mais Armand Frappier, maintenant, c'est un campus de recherche fondamentale. Ils font plus des vaccins là, pour la province.
Non, non, non.
Tout ça, c'est dans les mains des compagnies pharmaceutiques. Puis pour toutes sortes de raisons politiques, tout ça a été transféré aux compagnies pharmaceutiques privées. Comme ici, on a GSK à Québec là, qui produit des vaccins pour l'Amérique du Nord, là, des vaccins contre la grippe. Mais ça nous appartenait tout ça avant. Puis moi, je pense qu'il y aurait vraiment un besoin. On pourrait juste penser à petite échelle pour la province de Québec, être capable de se garantir des lots cliniques ou des plateformes vaccinales pré-autorisées pour un 8-9 millions de doses. Moi, je pense que ça pourrait se faire, puis que ça pourrait être un organisme qui serait gouvernemental ou un organisme à but non lucratif. Si on se met ensemble, là, il y a moyen de monter une structure qui aurait plusieurs plateformes vaccinales qui seraient faciles à modifier et utiliser rapidement, puis qui nous permettrait vraiment d'être beaucoup plus efficaces. Puis une fois qu'on aurait vacciné nos Québécois, on pourra penser à aider les Américains par la suite. Tu sais, je pense qu'il va falloir penser comme ça parce que c'est comme ça qu'on peut être beaucoup plus rapide pour intervenir. Puis oui. Quand on a 8 millions de doses à faire, ben c'est beaucoup plus facile de bouger rapidement que si on pense à 1 milliard de doses. C'est pas, on parle pas de la même échelle, là.
Donc, cette quête d'autonomie, il faudrait qu'elle soit inscrite aussi dans une volonté de financement, dans une volonté politique au ministère de la Santé, Santé Canada. Parce que vous ne pouvez pas toujours être des quêteux, parce que c'est ça. Je le sais, je participe à une fondation au CHU à Sherbrooke. J'ai un fonds, moi, pour l'aide, la recherche fondamentale. Et écoute, c'est des soupers spaghettis, c'est des danses, c'est n'importe quoi. On a de l'aide des quêteux en matière scientifique de recherche fondamentale.
Oui, j'aime pas ça, vous utilisez cette expression-là, mais c'est malheureusement la réalité. C'est comme s'il n'y a pas... Il n'y a pas de compréhension des gouvernements. C'est pas parce qu'on n'en parle pas depuis longtemps. Puis mes prédécesseurs, moi, je pense au docteur Michel Bergeron, par exemple, qui est l'ancien directeur du Centre de recherche en infectiologie. Ça fait 50 ans, le docteur Bergeron, qui dit qu'il faut investir dans la prévention. Il faut mettre des sous là-dedans parce que ça fait sauver de l'argent investir dans la prévention. Ça va nous coûter moins cher pour les soins de santé. Mais pourtant, on le fait pas. Puis la vaccination, ben c'est... C'est la meilleure approche de prévention contre les maladies infectieuses. C'est sûr qu'il faut mettre des sous là-dedans. Si on avait été prêt avec une structure dont je vous parlais tout à l'heure,
oui, oui.
Et imaginez les milliards qu'on aurait sauvés. Là. Regardez le déficit du gouvernement fédéral là, qui a été multiplié par 20 en moins de quelques mois juste à cause d'un petit virus. Écoutez, c'est épouvantable. Là.
Alors qu'on soit, avait mis une coupe par année depuis quelques années, on serait peut-être bien correct là.
Absolument. La structure dont je vous parle, ça va peut-être coûter de 50 à 100 millions la mettre en place. Là. Puis je parle pas d'une compagnie qui est abusée. En fait, c'est la première fois que j'en parle publiquement, mais ça fait longtemps que ça me trotte dans la tête. Puis je trouve que c'est une très bonne idée. Puis je vais essayer d'utiliser mon leadership pour essayer d'avoir du monde ensemble qui travaille dans cette direction-là. Puis c'est pas obligé d'être une compagnie à but lucratif. Tout le monde a droit à la santé, puis il me semble qu'il y aurait de la place pour ça, une structure comme ça ici au Québec.
Si vous avez besoin d'aide, Dr Leclerc, pour propager votre message, vous m'appelez, il n'y a aucun problème là-dessus.
J'ai déjà commencé avec cette entrevue-là.
Merci beaucoup. Saluez toute votre équipe, si petite soit-elle, de l'effort gigantesque qu'ils font pour notre mieux-être collectif. Merci beaucoup, Dr Leclerc.
Merci à vous.
Merci, au revoir. Écoute, puis pendant ce temps-là, on trouve 900 milliards de dollars à pouvoir donner à des bénévoles pour qu'ils aillent à l'école un jour. 900 millions de dollars. Écoutez, là, c'est 1 milliard. T'en fais-tu de la recherche avec ça? C'est assez incroyable. On va s'arrêter parce que ça pourrait... Je vais avoir besoin d'un vaccin moi-même contre la colère ou le pétage de coche, ou appelez ça comme vous voulez. Il y a de l'indécence dans les priorités gouvernementales chez nous et on perd des milliers de dollars à régler des commissions parlementaires qui ne servent qu'à favoriser le tremplin politique de chacune des formations politiques qui existent. Je trouve ça une aberration fondamentale. On s'arrête pour une pause.